Chapitre 3. 50 Don Juan. Il nous faut rétrograder de quelques heures pour parler d'une chose encore plus célèbre que la caisse à secrets et à défense de M. Bancel. En ce temps-là, Caen était une ville un peu tapageuse. Les étudiants et les militaires faisaient beaucoup de bruit autour des jolies femmes. La plus jolie personne de Caen, la plus belle aussi, c'était Julie Ménotte, femme du ciseleur sur acier. La jeunesse dorée de Caen désertait le grand cours et le cours de la préfecture pour croiser, sous les arbres lointains de la place des Acacias, depuis qu'André Ménotte avait ouvert, au coin de la promenade, un modeste magasin d'arquebuserie et de curiosités qui s'achalandait rapidement. Les officiers de toutes armes, car la division militaire n'avait pas encore été transférée à Rouen, les étudiants des diverses facultés et les lions du commerce se faisaient connaisseurs à l'unanimité et venaient admirer, du matin au soir, les objets modernes ou antiques disposés dans la montre étroite. André Ménotte, étranger à la ville de Caen, vendait des pistolets, des fleurets, des masques, des gants fourrés, en même temps que des fines lames espagnoles ou milanaises, des bahuts, des pierres gravées, des porcelaines et des émaux. Je ne prétends pas dire néanmoins que l'éblouissante beauté de sa jeune femme ne fut pas pour quelque chose dans le succès vraiment précoce d'une pareille industrie. Julie Ménotte, suave comme une vierge mère de Raphaël, avec un petit ange dans ses bras, avait été pour la maison une merveilleuse enseigne. Ces dames vont où courent ces messieurs. La belle Julie rajeunissait avec une adresse de fée les dentelles de prix et les guipures authentiques. Elle rendait aux soieries leurs couleurs, elle restituait aux tissus de l'Inde l'éclat premier de leur broderie. Il y avait deux opinions parmi ces dames. Celle qui n'était pas mal disait « elle n'a rien d'étonnant ». Celle qui était véritablement jolie et celle qui était franchement laide, réunies en un même sentiment par des motifs fort opposés, la déclaraient délicieuse. Et toutes s'occupaient d'elle. Il faut de ces dissensions pour faire un succès, la maison prospérait. Et vraiment, André Ménotte, fier et vaillant garçon, tout jeune comme sa femme, intelligent, robuste, ardent, très amoureux, et qui n'eût point souffert que la vogue dépassât certaines bornes, n'avait pas trop à se plaindre. Julie, tendre et sage, le rendait le plus heureux des hommes. Les gentilshommes du commerce, les étudiants et les officiers admiraient de loin. Ces trois catégories de triomphateurs entreprennent moins qu'on ne le suppose. Il nous faut ajouter cependant que le commissaire de police, M. Schwartz, habitait le premier étage de la maison dont les Ménotte occupaient le rez-de-chaussée. Ses voisinages protègent aussi la vertu. De ce qui précède, le lecteur a sans doute conclu que la chose la plus célèbre que le coffre-fort de M. Bancel à Caen était l'exquise beauté de Julie Ménotte. Erreur. Pour faire concurrence à la fameuse caisse du banquier, c'était un objet matériel qu'il faut, et nous avons parlé des Ménotte parce que l'objet resplendissait à la montre de leur boutique. L'objet était un brassard de Milan, ou, pour parler mieux le langage technique, un gantelet plein composé du gant, de la garniture du poignet articulé et du brassard ou fourreau d'acier destiné à emboîter l'avant-bras jusqu'au devant du coude. La pièce entière, damasquinée, or et argent brûlé, clouée de rubis aux jointures et ciselée dans la vigoureuse manière des armuriers du XIVe siècle, était une œuvre à la fois très apparente et très méritante, faite pour attirer le regard des profanes aussi bien que l'attention des connaisseurs. Caen tout entier connaissait déjà le brassard qu'André Ménotte avait eu dans un lot de vieilles ferrailles et qui, restauré par ses mains habiles, trônait à la montre depuis 8 jours. L'opinion générale était que dans la ville, on aurait pu trouver un amateur assez riche pour payer le prix d'une pareille rareté, tant à cause du travail que pour la valeur intrinsèque des métaux et des pierres fines qui contribuaient à son ornementation. On chiffrait des sommes folles, et les mieux instruits affirmaient qu'André Ménotte allait faire le voyage de Paris pour vendre son brassard au roi, directeur honoraire du musée du Louvre. C'était à peu près l'heure où notre Jean-Baptiste Schwartz rencontrait ce brillant monsieur Lecoq sur le quai de l'Orne. 50 paires de lunettes, lunettes du commerce, lunettes de l'école, lunettes de l'armée, étaient braquées sur la montre d'André Ménotte, où l'illustre brassard étalait ses dorures historiées entre une hache d'armes et un casse-tête, sous les festons formés par les dentelles de Julie. Ces 50 paires de lunettes se promenaient sous les tilleuls de la place des Acacias. Elles cherchaient toutes, derrière la ferraille et les guipures, une charmante vision qui trop rarement s'apercevait, car Julie Ménotte fuyait devant cette vogue un peu embarrassante et se tenait avec son enfant dans l'arrière-boutique. André travaillait en chantant devant son établi, réparant une paire de pistolets de tir et répondant çà et là par un signe de tête courtois au bonjour de ses clients. La plupart des paires de lunettes, en effet, briguaient le salut d'André. Cela donnait bon air. Il y avait là de gracieuses figures en dépit du stupide outrage des bésicles. Il y avait des joues roses, des tailles souples et fines. Les jolis jeunes gens ne manquent pas plus à Caen qu'ailleurs, et tous ces chers garçons, depuis le premier jusqu'au dernier, auraient vidé leurs poches avec plaisir dans la main de quiconque les eût accusés de bonne foi d'avoir troublé cet invulnérable ménage d'artisans. La gloire! À l'étage au-dessus, le commissaire de police et sa femme prenaient le frais à leur balcon. La dame appartenait à la catégorie hostile et prétentieuse de celles qui ne sont pas mal. Julie l'impatientait considérablement. Le commissaire, homme sage, esprit étroit et rigoureusement honnête, regardait un peu ses voisins comme des intrigants. Leur succès avait une odeur d'émeute, et il avait eu des peines domestiques pour avoir dit autrefois que Julie Ménotte avait les yeux grands. Madame la commissaire parlait de déménager à cause de Julie et regrettait la vue des arbres aigrement. Les paires de lunettes ne se dirigeaient pas assez souvent vers son balcon. Aussi, disait-elle, c'est insupportable d'être ainsi regardé. Le commissaire était de mauvaise humeur. Vers 6 h 30, un vieux domestique, portant un costume hybride qui essayait timidement d'être une livrée, entra chez les Ménotte et tout le monde à la fois de se dire, tiens, voilà monsieur Bancel qui a besoin chez André. Le vieux domestique appartenait à monsieur Bancel. Quelques instants après, André, tête nue et en manche de chemise, sortit avec le vieux domestique. C'est pour le coffre-fort, je parie, s'écria madame Schwartz. Monsieur Bancel devient fou. Fou allié, approuva le commissaire. Et sur place, les 50 paires de lunettes. Monsieur Bancel ne sait plus comment manier sa serrure de sûreté. Non, il a peur que sa mécanique ne le prenne pour un voleur. Peut-être qu'il a déjà la main pincée dans la ratière, et d'autres choses encore plus spirituelles. Cependant, Julie était seule. Il se fit un mouvement parmi les séducteurs. Mais il y avait le commissaire et sa femme à la fenêtre. Sans cela, que serait-il arrivé? On passa, on repassa devant la montre. Les poitrines s'enflaient, les jarrets se tendaient, les tailles se cambraient. Figurez-vous bien que chacun des 50, militaires ou civils, avait un secret espoir qui se peut formuler ainsi: elle me regarde. Tout à coup, madame la commissaire, qui bâillait, s'interrompit et demanda: qu'est-ce qui le lorgne? C'est que les 50, groupés en face de la porte, regardaient en effet de toutes leurs lunettes. Badaud! prononça le commissaire avec dédain. Sa femme, à bout de patience, quitta la fenêtre. Voilà ce que les 50 regardaient. Un rayon de soleil pénétrant dans l'arrière-boutique par une fenêtre de derrière, dont la belle Julie venait d'ouvrir les contrevents, brillantait tout à coup le modeste intérieur des ménottes. C'était comme un lever de rideau. Tout ce que contenait la petite chambre, meubles et gens, sortait vivement de l'ombre. Les meubles étaient bien simples, et ce qu'on distinguait le mieux, c'était le lit des jeunes époux dominant le berceau de l'enfant. De l'autre côté du lit, un fourneau fumait. Au milieu de la chambre, une table de bois blanc supportait l'ouvrage de Julie, un monceau de guipure. Julie avait ouvert sa fenêtre pour mieux voir, à peigner un blond chérubin dont le soleil dorait gaiement l'abondante chevelure. Julie ne songeait point qu'on la voyait, accoutumée qu'elle était à l'ombre de son arrière-boutique. Elle se donnait tout naïvement au bonheur de ses caresses maternelles. Le rayon l'enveloppait amoureusement, découpant les suaves lignes de son profil, massant ses cheveux protecteurs, diamantant le sourire de ses prunelles et donnant à la grâce délicate de ses doigts roses je ne sais quelle idéale transparence. L'enfant tantôt la baisait, tantôt se débattait en de jolies révoltes. La croisée du fond s'encadrait de jasmins parmi lesquels pendait une cage où des oiseaux fous se démenaient. Le fourneau rendait les flocons bleuâtres qui allaient tournoyant dans la lumière. Les 50 regardaient cela. Et comme à un certain moment Julie rougit depuis le sein jusqu'au front en s'apercevant qu'elle était en spectacle, ils eurent honte et se dispersèrent. Julie ferma à demi la porte de son arrière-boutique et acheva de peigner son petit garçon. C'était le moment où les élégantes de la ville de Caen venaient faire leur promenade. Nos 50 donjuans avaient chacun plus d'une intrigue. Tel gaillard du jeune commerce, tout en séduisant Julie Ménotte dans ses rêves, payait le loyer d'une prolétaire et adressait des vœux insensés à une dame de la société. Jugé par là de ce qu'il en devait être des étudiants encore plus effrontés et des officiers. Nous l'avons vu, la place des acacias était à la mode. Il vint des dames de la noblesse et des dames de la haute fabrication, des dames officielles aussi, soit qu'elles ressortissent du ministère de l'Intérieur, soit qu'elles relevassent du garde des Sceaux. Caen est une capitale. Les dames qui servent l'État, transportant ça et là leur ménage, selon les exigences de la patrie, aiment le séjour de Caen où la société est agréable, l'air pur et la vie à bon compte. Le croiriez-vous, cette belle Ménotte, cette madone de l'école italienne, fut un peu troublée par la promenade de ces dames. Elle mit fin brusquement à la toilette de son cher amour et ne donna plus qu'un regard distrait au souper d'André, son mari, qui chauffait sur le fourneau. Pourtant, elle aimait bien son André, l'époux le plus aimant que vous puissiez rêver. C'était un mariage d'amour, s'il en fut au monde. Mais la belle Ménotte, cachée derrière la porte, se mit à regarder les robes de soie, les crêpes de Chine, les écharpes légères, les chapeaux de paille d'Italie, que sais-je. Les 50, eussent-ils été 500, n'auraient pas obtenu un coup d'œil, mais la belle Julie soupirait en regardant les palmes et les fleurs. Le pavé sonna sous le pas des chevaux. La belle Ménotte pâlit. C'était une calèche découverte, corbeille balancée, qui apportait tout un bouquet de marquises normandes, jolies comme des parisiennes. Julie ferma sa porte, s'assit et soupira. L'enfant voulut monter sur ses genoux, elle le repoussa. Ce fut l'affaire d'un instant, et cela valut au cher petit un redoublement de caresses, mais elle l'avait repoussé. Mais elle restait rêveuse, mais elle prit dans le tiroir de la table de bois blanc un jeu de cartes. Elle venait du midi, cette splendide créature, elle n'avait pas 20 ans. Elle se fit les cartes. Le petit s'amusait à voir cela et restait sage. À mesure qu'elle se faisait les cartes, la figure admirablement correcte et intelligente de la jeune femme s'animait. Il y avait de la passion maintenant sous sa beauté. Elle suivait d'un œil avide et brillant les évolutions de son jeu et parfois des paroles involontaires venaient jusqu'à ses lèvres. « Tu seras riche, » dit-elle à l'enfant, avec un geste violent qui la fit tressaillir. Puis elle laissa tomber sa tête entre ses mains, Et puis encore, elle rassembla les cartes et les remit dans leur cachette en murmurant « Elles ne disent pas quand. » André rentra vers la brune. Les promeneurs devenaient plus rares au dehors. Le commissaire de police venait de partir pour le cirque, laissant sa femme avec Eliassin Schwartz. Eliassin était l'Alsacien qui avait pris les devants sur notre Jean-Baptiste Schwartz. Sans Eliassin, notre Jean-Baptiste Schwartz eût été accepté peut-être dans les bureaux du commissaire de police. Aussi, plus tard, Jean-Baptiste Schwartz, devenu millionnaire, car il devint millionnaire et plutôt 10 fois qu'une, fit une position à cet Eliassin, auteur indirect de sa fortune. La meilleure chance est souvent de perdre les petites parties. Eliassin avait les cheveux, les cils et les sourcils d'un blond incolore, la peau rose, les épaules larges, les dents saines, les yeux à fleur de tête. C'était un fort Alsacien. Il faisait bien son ouvrage au bureau et disait à la commissaire que Julie n'avait que la beauté du diable. On était assez content de lui. En bas, dans l'arrière-boutique, ce fut un souper d'amoureux. Il y avait de l'enfant chez cet André, malgré la mâle expression de son visage. Il était heureux avec folie parfois, et quand il regardait sa femme, son adoré trésor, il avait peur de rêver. Notez qu'il n'ignorait rien, quoiqu'il fît semblant de ne pas savoir. Il connaissait la cachette du jeu de cartes, et quand passaient sous les arbres du cours les belles robes bouillonnées, les crêpes de Chine, les chapeaux de paille d'Italie, il sentait battre dans sa propre poitrine le petit cœur de la fille d'Ève. Oh, il aimait bien, et son cœur à lui était d'un homme. Mais Julie ne songeait plus à tout cela. Quand les yeux de son André se miraient dans les siens, elle ne savait qu'être heureuse et défier la félicité des reines. Je le répète, c'était deux amoureux. L'enfant jouait parmi leurs baisers, riante et douce créature, qui était entre eux comme le sourire même de leur bonheur. On causait de tout, excepté d'amour, car les joies du ménage ne ressemblent point aux autres, et c'est le tort qu'elles ont peut-être. La jeune femme demanda « Pourquoi es-tu resté si longtemps chez Monsieur Bancel ?»« Sa caisse, répondit André, toujours sa caisse, il en perdra l'esprit. » « Que veut-il faire à sa caisse ?»« Façonner les clous, ciseler les boulons, dorer les moulures, bronzer les méplats, changer le meuble en bijoux, il est fou !» Un bruit léger se fit dans le magasin. Ils écoutèrent tous deux, mais sans rien déranger. Bien que la soirée fût déjà fort avancée, on entendait encore les promeneurs de la place. « Est-ce que ça pourrait vraiment prendre un voleur ?» demanda encore Julie. « Je le crois bien, c'est un piège à loup. Monsieur Bancel m'a montré le mécanisme en détail. Quand le système est armé, un collet mécanique sort au-dessus de la serrure au premier tour de clé de manière à saisir le bras du voleur. Les ressorts sont d'une grande puissance et la chose joue à merveille, de telle sorte qu'ici Monsieur Bancel, un jour qu'il sera pressé, oublie de désarmer la machine. « Il y a beaucoup d'argent dans la caisse ?» interrompit la jeune femme curieusement. « Toute son échéance du 31 et le prix de son château de la côte, plus de 400 000 francs !» Un sourire passa sur les lèvres fraîches de Julie. André poursuivit. « Monsieur Bancel le chante à tout le monde. On dirait qu'il a envie de tenter un voleur pour faire l'épreuve de sa caisse. Nous étions trois chez lui ce soir. » Il nous a montré les billets de banque et nous a dit « Cela se garde tout seul. Mon garçon de caisse m'a quitté, je ne songe même pas à le remplacer. Personne ne couche ici, personne. » Il a répété 2 fois le mot. « Plus de 400 000 francs, murmura la belle Ménotte, voilà des enfants qui seront riches. » Un nuage vint au front d'André. « Ah, ça !» s'écria-t-il en se levant brusquement, « il y a quelqu'un au magasin !» Une vibration métallique, tout étouffée, avait sonné dans le silence qui succédait aux dernières paroles de Julie. André s'élança dans le magasin, suivi par sa femme qui portait un flambeau. Le magasin était vide et rien n'y semblait dérangé. « Quelque ferraille qui se sera décrochée ?» commença Julie. « Ah tiens, le chat du commissaire !» Un matou passa, fuyant entre les jambes d'André, qui se mit à rire en le poursuivant jusque sur la place. Sur la place, il n'y avait plus de promeneurs. André n'aperçut qu'un seul passant qui, lentement, se perdait sous les arbres. C'était un rustaud, en pantalon de cotonnade bleue, blouse grise et bonnet de laine rousse. « Couche le petit, dit-il, il faut que je te parle. » Julie se hâta, curieuse. Quand elle eut baisé l'enfant dans son berceau, elle revint, et André jeta un châle sur ses épaules, et disant « Nous serons mieux dehors par la chaleur qu'il fait. » Il y avait dans ses paroles une certaine gravité qui intriguait la jeune femme. Au moment où André donnait un tour de clé à sa porte avant de s'éloigner, le commissaire de police arriva devant la maison, revenant du cirque Franconi. Sa dernière entrevue avec Jean-Baptiste Schwartz l'avait mis d'humeur détestable. Il dit à sa femme qui se déshabillait pour se mettre au lit « Ces petites gens d'en bas ont de drôles de manières. Je les ai rencontrés qui vont courir le guilledou. » À quoi la commissaire répondit en style familier « Oh, ça fait une vie d'arlequin, on ne sait pas d'où ça tombe. Ah, t'en place-moi, je les surveillerai. » Ils allaient tous les deux, André et Julie, les bras entrelacés, contents d'être seuls, sans crainte ni défiance. Ils allaient lentement, échangeant des paroles émues. Ils causaient de l'avenir que l'homme propose sans cesse et dont Dieu dispose toujours.